Et c'est l'heure du journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Après Sevran et Dijon, le CHU de Lille commencera à vacciner ce midi des résidents d'un EHPAD contre le Covid-19. La campagne a été lancée hier en France. Les plus âgés font partie des personnes prioritaires. Nous verrons que cette stratégie n'a pas été adoptée par tous les pays.
La vaccination a donc commencé dans l'Union européenne, comme en Allemagne, où la distribution a été retardée en Bavière à cause d'une rupture dans la chaîne du froid.
Les doses du vaccin Pfizer et BioNTech sont livrées depuis l'Allemagne et la Belgique. L'acheminement jusqu'en Outre-mer se fait par avion. Il faudra attendre début janvier pour la vaccination. Zoom ce matin sur la logistique en Guyane.
La plateforme Covidome permet de suivre les patients à distance pour désengorger les urgences. L'outil a déjà servi à 800 000 personnes et pourrait être étendu.
Nous nous arrêterons ce matin à Bangui. Les Centrafricains étaient appelés à voter hier. Élections présidentielles et législatives. Le scrutin s'est déroulé sans violence majeure dans un contexte sécuritaire pourtant très tendu.
Les violences contre les élus de la République font régulièrement l'actualité, comme c'était le cas récemment dans le Val-de-Marne. L'escalade de la violence a passé un cap, dénoncent les maires d'Île-de-France.
Et tous les jours, cette semaine, dans son billet politique, Frédéric Saïs dresse l'état de santé d'un parti politique français. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts.
Pas de panique.
Allez, on y va, vous êtes prête?
Allez-y.
Hop. Ça va?
Très bien.
Très bien?
Ça va.
Aïe.
Et je serais émue.
Bah oui, vous avez raison.
Vous êtes la première à être vaccinée en France.
Applaudissements hier pour Morissette, 78 ans, la première à être vaccinée en France contre le Covid-19. Une piqûre très médiatisée, peut-être historique. Injection faite hier à l'hôpital René Muret de Sevran en Seine-Saint-Denis. Quelques personnes âgées et des soignants ont déjà reçu le produit de Pfizer et BioNTech. La campagne française de vaccination a donc commencé hier. Peu à peu, elle sera élargie pour arriver à 15 millions de personnes vaccinées d'ici l'été prochain. Si de nombreux pays comme la France ont choisi de vacciner en priorité les personnes âgées, l'Indonésie a opté pour la stratégie inverse. Elle a reçu plus d'un million de doses en provenance de la Chine et s'apprête à administrer ce produit en priorité aux 18-59 ans, c'est-à-dire la population la plus mobile, la plus apte à contaminer autour d'elle une population souvent asymptomatique. En Asie du Sud-Est, la correspondance de Gabriel Maréchaux.
Vaccin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis.
Un vaccin gratis pour tous, promet le président indonésien, mais pas tout de suite. La priorité est donnée aux moins de 59 ans, un choix qui n'étonne pas l'épidémiologiste Diki Budiman.
Depuis le début de nos essais cliniques du vaccin chinois, ce choix était déjà là, de se concentrer sur les personnes en âge de procréer. D'abord sans doute car le gouvernement veut être sûr que ces personnes qui ont l'âge d'être parents soient à l'abri du virus et puissent participer à la relance économique du pays. Et puis aussi parce que c'est le choix de la sécurité, avec un risque minimum d'avoir des effets secondaires ou de plus sérieuses complications.
Si ce parti pris ne fait pas tellement débat dans le pays, c'est plus sur le vaccin lui-même que les près de 270 millions d'Indonésiens s'interrogent. Pour les rassurer notamment, les autorités religieuses sont allées en Chine voir si la production du vaccin était halal.
La certification halal est quasiment obligatoire pour beaucoup de musulmans. Beaucoup de médicaments utilisent une dose infime de porc, cela par exemple pourrait être critique.
Toutes les chances sont ainsi données au vaccin chinois à Jakarta, où l'on combat toujours une très longue première vague et où de nouveaux cimetières doivent être construits pour accueillir les morts du Covid-19.
L'Indonésie vaccinera d'ici quelques jours, tandis qu'en Europe, de nombreuses campagnes ont commencé ce week-end. En Allemagne, des résidents d'une maison de retraite ont reçu leur piqûre samedi soir. Comme pour la France, un seul vaccin pour l'instant est utilisé, celui de l'alliance entre le géant américain Pfizer et la petite société allemande BioNTech, vaccin qui doit se conserver au froid. Et ça n'a pas toujours été une réussite, Ludovic Piétenu.
Une rupture de la chaîne du froid n'a pas permis de commencer la vaccination dans 7 cantons de Bavière. L'information a fait l'ouverture des journaux. Seul impair pour cette première livraison de 150 000 doses, suivie de 520 000 autres aujourd'hui. C'est tout simplement trop peu, a jugé le dirigeant bavarois, car dans les faits, d'ici fin mars, le nombre de doses attendues ne couvre pas les besoins des 8,5 millions d'Allemands prioritaires. C'est une première étape, mais elle est importante, tempère Peter Tschentscher, le maire de Hambourg, jours. C'est normal qu'au début, cela se fasse lentement. À Berlin, par exemple, n'est ouvert depuis hier qu'un seul centre sur les 6. C'est ici, à l'Arena, une salle de concert du quartier de Treptow, qu'observe ce couple de retraités. On est venu jeter un œil parce qu'on sait qu'on va devoir y venir, explique Renate, 82 ans, qui dit ne pas avoir peur du coronavirus parce qu'on est déjà bien trop vieux, dit-elle. Mais il faudra bien se faire vacciner, surtout en espérant que ça aide les autres. Les 80 cabines de ce centre ne fonctionnent que sur invitation adressée au personnel médical et aux plus de 80 ans qui peuvent se déplacer. Pour les autres, des équipes mobiles viennent à leur rencontre dans les maisons de retraite. Dans la capitale, par exemple, circulent 60 voiturettes capables chacune de vacciner 50 personnes par jour.
Encore un peu de patience en Outre-mer. Les vaccinations vont démarrer en janvier à La Réunion, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou en Polynésie française. En cause, l'acheminement par avion des doses de vaccins, Lucas Chassal.
7300 km, c'est la distance entre Cayenne, la préfecture du département de la Guyane, et la Belgique, d'où partent les vaccins du laboratoire Pfizer. Pour BioNTech, les doses sont livrées depuis l'Allemagne. Il est évident que l'acheminement dans les DOM-TOM prend un peu plus de temps qu'en métropole. Le ministère de la Santé estime le retard du démarrage de la campagne de vaccination dans les départements et territoires d'outre-mer à une dizaine de jours. Confirmation d'Alexandre de la Volpillière, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé de Guyane.
Les premières doses de vaccins devraient arriver à compter du 6 janvier, à peu près dans les mêmes délais que dans les autres départements ou régions d'outre-mer, mais aussi dans les mêmes délais que certains départements dans l'Hexagone. Évidemment, nous avons un acheminement par fret aérien, donc ça dépendra aussi de l'accès au fret aérien. Cette livraison sera évidemment fléchée comme une livraison prioritaire, donc ça ne devrait pas impacter le départ de la vaccination en Guyane. Un congélateur a d'ores et déjà été commandé et sera installé courant janvier. Mais la Guyane dispose également de congélateurs au sein de l'Institut Pasteur qui pourront, le cas échéant, accueillir les premières doses.
L'adhésion des Guyanais à cette campagne de lutte vaccinale contre la Covid-19 demeure pour l'instant une incertitude, confie enfin Alexandre de la Volpillière. Même si la population guyanaise est habituée aux vaccinations, notamment contre la fièvre jaune, un vaccin obligatoire pour tous les Guyanais et les touristes qui se rendent dans ce département d'outre-mer.
Ce qui n'est pas le cas du vaccin contre le Covid-19, celui-ci n'est pas obligatoire. Faut-il s'attendre à un troisième confinement en France, à des confinements locaux début janvier? Un conseil de défense sanitaire devrait avoir lieu demain autour du président de la République Emmanuel Macron en visioconférence. Le nombre des nouvelles contaminations ne baisse pas suffisamment et beaucoup de soignants, après une année particulièrement difficile, saturent pour faire l'économie du moindre lit et soulager les personnels hospitaliers. Le gouvernement français mise sur la télésurveillance. L'idée est de suivre les patients chez eux depuis une application avec une plateforme téléphonique, en l'occurrence Covidom. Lancée durant le premier confinement en Ile-de-France, elle a déjà accompagné plus de 800 000 personnes. L'outil pourrait même être étendu, Laurine Benjebria.
Bonjour, je suis Alex de la plateforme Covid Contact. Comment allez-vous ?
Fatigue, mal de tête, Alex note les symptômes. Il faut aussi répondre aux inquiétudes et elles sont nombreuses selon Xavier Mazingue, téléopérateur.
Le nombre de personnes qu'on a nous au téléphone là, simplement en prenant le temps d'expliquer des choses, alors qu'ils étaient prêts à appeler le SAMU ou aller aux urgences, se retrouvent à dire « bah oui, non, effectivement, je suis en train de paniquer pour rien ». Un patient, il est toujours un peu stressé.
Pour répondre à ce besoin, Patrick Jourdain, cardiologue et responsable de Covidom, veut étendre la plateforme à des dizaines d'autres maladies.
Par exemple, la grippe sévère, des pathologies chroniques, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, mais également le passage pré- et post-chirurgical.
Comme pour Covidom, un téléopérateur formé sera en charge du suivi en lien avec le médecin traitant.
Médecin de ville qui est souvent fatigué, qui est soumis à un afflux de patients et dont il sait que le week-end, eh bien même si lui n'est pas présent, la plateforme sera là en filet de sécurité.
En évitant les appels au médecin libéral et au SAMU, l'objectif de ce futur dispositif nommé Télédom, ce sera de désengorger les hôpitaux, un outil plus que nécessaire selon Catherine Legal, chef des urgences d'Argenteuil.
Sur la crise du Covid, ça a diminué les retours aux urgences. Sur les malades plus graves, la télésurveillance nous a permis d'en faire sortir un certain nombre plus tôt. Tout ça était en gestation depuis des années.
Et finalement, c'est l'épidémie de coronavirus qui a servi de catalyseur, selon Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
Le Covid, ça a permis d'accélérer. C'est des projets que conceptuellement tout le monde avait un peu en tête, mais qui deviennent une réalité.
Pour l'instant, Télédom n'est qu'un projet. Ses responsables ont déposé auprès du ministère de la Santé un dossier de demande de financement dérogatoire.
Un an, on le disait, que ce Covid-19 est apparu à Wuhan. Zhang Zhan, une ancienne avocate, aujourd'hui journaliste, qui avait couvert l'épidémie dans cette mégapole chinoise, a été condamnée ce matin à 4 ans de prison. Elle a été jugée en quelques heures. La presse et les diplomates étrangers n'ont pas été autorisés à entrer dans le tribunal de Shanghai. La jeune femme avait diffusé sur les réseaux sociaux des reportages sur la situation chaotique dans les hôpitaux. Notre correspondante en Chine s'est rendue à Wuhan pour France Culture. Dominique André signait ce matin le reportage de la rédaction à 7h25, à réécouter sur notre site franceculture.fr. Donald Trump avait menacé d'opposer son veto au plan de relance de l'économie américaine. Finalement, hier soir, le président sortant des États-Unis a ratifié ce plan de 900 milliards de dollars. Il prévoit des aides aux ménages et aux petites entreprises.
8h10 sur France Culture, la suite de votre journal. Margot Delpierre, avec des groupes armés qui menaçaient d'empêcher le vote et de marcher sur Bangui.
Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu hier en Centrafrique dans un contexte sécuritaire tendu. Après plusieurs jours de combats dans certaines localités du pays, une élection à haut risque qui s'est finalement un peu mieux déroulée que prévu, Charlotte Cosset.
Il n'y a pas eu d'incident sécuritaire important dans la capitale. Les bureaux de vote ont pour certains eu du retard à l'ouverture, en cause des problèmes de logistique notamment. Quelques dysfonctionnements ont aussi été signalés, mais les électeurs étaient globalement au rendez-vous à Bangui, décidés à utiliser leur droit de vote pour lutter contre les pressions des groupes armés. Un dispositif sécuritaire important a été déployé à Bangui, dans la ville et dans les bureaux de vote. Casques bleus et forces de sécurité nationale étaient très présentes. Si à Bangui la situation a été calme, ce n'est pas le cas dans certaines villes de province, notamment dans les villes de Boire ou de Bambari. Dans certaines localités, les groupes armés ont perturbé le vote en empêchant le déploiement du matériel, en détruisant ou volant les urnes ou en faisant peur aux électeurs. Hier soir, les chiffres de la participation n'étaient pas encore connus.
Élection dans le calme au Niger. Cette fois, les Nigériens devaient élire leur président, pays habitué à des coups d'État en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Camille Magnard en parlait ce matin dans sa revue de presse internationale, à retrouver sur franceculture.fr. Toute autre violence, celle-ci concerne des élus locaux. La maire communiste de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne dit être la cible d'agression depuis plusieurs semaines. Au début du mois, son fils de 14 ans a lui été agressé en rentrant du collège. L'élu dénonce des actes d'intimidation en série liés, selon elle, à son action contre un trafic dans sa commune. Et cela remet en lumière les violences dont sont victimes les élus de la République, Rosalie Lafarge.
L'escalade de la violence a passé un cap, dénoncent les maires d'Île-de-France. Ce cap, c'est l'agression d'un enfant d'élu, signe pour certains qu'une digue est en train de céder.
La digue du symbole de la République.
Pour Jean-François Vigier, le maire UDI de Bure-sur-Yvette et secrétaire général adjoint de l'Association des maires d'Île-de-France, la fonction de maire n'inspire plus le respect qu'elle devrait.
Ce respect-là est en train de se perdre de plus en plus. Le citoyen a tendance à venir chercher de l'aide auprès du représentant de la République qui est le plus proche de lui. C'est le maire, et c'est normal, et nous voulons cette proximité dans les rapports, nous l'acceptons, mais on sent qu'on avance de plus en plus dans des situations qu'on ne peut pas accepter.
Et ce maire en appelle au gouvernement. Une circulaire du mois de septembre est venue compléter les mesures de lutte contre les agressions des élus, requalifiant par exemple l'insulte en outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, plus sévèrement punie. Mais il faut faire plus, plaide Jean-François Vigier.
J'ai peur qu'une circulaire ne soit pas suffisante pour régler cela. Il faut des textes, il faut des lois, il faut que les sanctions soient clairement identifiées pour que chaque citoyen sache très précisément ce qu'il risque s'il s'en prend à un élu local pour des raisons liées à sa fonction et à l'action municipale.
Pour mesurer l'application et l'efficacité de la circulaire Dupond-Moretti du mois de septembre, l'Association des maires de France a lancé son observatoire des agressions contre les élus. Son premier bilan est attendu pour le mois d'avril.
Un hommage sera rendu à la mi-journée aux gendarmes tués à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme la semaine dernière par un forcené. Ils intervenaient pour empêcher l'assaillant de s'en prendre à sa compagne. L'hommage aura lieu à Amber, la commune où travaillaient les trois militaires, en présence des ministres de l'Intérieur et des Armées. Les 15 plus grosses catastrophes climatiques cette année dans le monde ont coûté plus de 120 milliards d'euros. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport de l'ONG Christian Aid publié aujourd'hui. Citons par exemple exemple la saison des ouragans aux États-Unis et en Amérique centrale avec plus de 40 milliards de dollars de dégâts. En Europe, la tempête Alex a fait près de 3 milliards d'euros de dégâts et tué 16 personnes, notamment dans la vallée de la Roya. Des milliers de personnes étaient privées d'électricité hier soir en Alsace, en Franche-Comté et en Auvergne après le passage de la tempête Bella. Du Puy-de-Dôme à l'Aveyron et sur les littoraux, 9 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour des chutes de neige, des risques de verglas et de vagues submersion. Le temps est donc très perturbé. Vous n'aurez pas plus de 5 degrés à Lille et Strasbourg, 6 à Paris, 8 à Brest, 9 à Bordeaux et 11 degrés à Marseille, Hervé Gardette.
Merci Margot Delpierre. À 8h45, vous retrouverez, nous retrouverons Hervé Le Tellier, dernier prix Goncourt, pour sa chronique à la découverte d'une ville, justement méconnue. Ce sera suivi de Carnet de philosophie de Géraldine Mosna-Savoie. Quant à Arnaud Laporte, eh bien, il posera la question à un ou une artiste. À quoi pensez-vous dans 5 minutes? Nous serons à nouveau en compagnie de l'historien et démographe Patrice Bourdelet pour parler de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les politiques sanitaires. Et dans un instant, le billet politique de Frédéric Saïs.